Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
Life isn't fair. Justice is blind and dysfunctional. And some cops aren't smart and dedicated like on television. This is Who Killed Teresa?
Who is the girl with the red hair and the scar under her right eye who asked Jane Finley if she had seen Teresa after her disappearance? Why is Teresa's telephone and address book not in her handbag as it usually was, having encountered someone on her way there who has forced or persuaded her to remain with him, her, or who has caused her death? We cannot state with any greater degree of certainty the final explanation of Teresa's disappearance.
C'est un extrait du podcast du balado Who Killed Teresa de John Allor qu'on a croisé et Pierre-Hugues Boisvenu de retour à l'émission. Monsieur Boisvenu, bonjour.
Monsieur Dutrisac, bonne journée. Bonne journée à tous les gens qui sont avec nous ce midi.
Honnêtement, j'aurais préféré qu'on saute un tour, Monsieur Boisvenu, là, ouais. dans nos conversations. Hier, ma conjointe a vu que vous aviez mis sur, je pense, votre page Facebook, la mort de John Allor. Vous l'avez connu beaucoup plus mieux que moi. Moi, j'ai fait un reportage, vous y étiez aussi, sur ce qu'on appelle les cold cases, et John Allor était évertué à essayer de trouver l'assassin de sa sœur qui a été tuée, je pense, en avril. Elle est disparue en novembre de 1978 et retrouvée morte en avril 1979. Quel était votre rapport avec John Allor? Et il est décédé hier, ce qu'on a appris.
Hier matin, dans un accident de vélo, il faisait du vélo, puis une voiture qui avait un excès de vitesse, que j'ai appris, l'a frappé. Donc, l'individu qui l'a frappé à mort devrait être accusé d'excès de vitesse causant la mort. Et moi, John, je l'ai connu en 2002. Ça remonte quand même à 21 ans. 2003, excusez-moi, décembre 2003. Je reçois un téléphone à un moment donné. Je vois bien que c'est aux États-Unis. Le gars se présente, John Allor, que je connais pas à l'époque. Et il me dit, Pierre, savais-tu qu'il y avait une conférence qui s'en vient à Ottawa le 3 décembre sur les victimes d'un criminel, et le thème, c'est la parole aux victimes. Donc, moi, je suis surpris. À l'époque, je suis dans les médias à peu près tous les semaines à cause de l'assassinat de Julie et le procès qui s'en vient. Et on se rencontre, John et moi, le 3 décembre à Ottawa, la veille, le 2 décembre. On s'invite au congrès comme tel. Et pour s'apercevoir que dans la salle où il y avait ce congrès-là, il y avait 300 personnes. Et John et moi, on était les seuls proches de victimes. C'était des fonctionnaires, des travailleurs sociaux, des criminologues. Et c'est là qu'on a pris la parole pour une première fois en public, vraiment tous les deux. John en anglais, moi en français. Et j'ai dit, je m'appelle Pierre-Hugues Boisvenu, je suis le père de Julie Boisvenu. Vous ne parlerez plus à notre nom. Nous allons parler à notre nom. Et c'est là, dans le fond, avec John et cette prise de position très ferme, que l'association est venue au monde. Et depuis 2003, depuis cette date-là, cette journée-là, John et moi, on s'est jamais quittés. On a toujours gardé contact. On a travaillé ensemble sur des dossiers de disparition parce qu'il a travaillé aussi beaucoup avec Stéphane Luce, que vous connaissez, vous l'avez déjà interviewé. Donc, John s'est investi presque à 100%. Il est venu au Québec. Il vit au Québec 2-3 fois par année. Et là, effectivement, il tournait un documentaire qui va être d'ailleurs diffusé ce soir. À la télévision. Il devait être ici pour la diffusion, mais malgré ça, ça va être diffusé avec un John Allor décédé. Mais on peut-tu se contenter quand quelqu'un décède? Non. Mais je pense que John, aujourd'hui, connaît la vérité sur l'assassin de sa sœur Teresa.
Ah oui? Parce qu'il a été un caillou dans le soulier de la Sûreté du Québec à qui John reprochait l'incompétence.
Reprochait d'abord à l'époque, faut comprendre que les cas de disparition étaient relativement tassés de côté. On s'en occupait quelques mois, puis après ça tombait dans l'oubli. Les choses ont peut-être changé aujourd'hui, puis je pense que oui. Puis John a mis beaucoup de pression sur la sûreté. Il s'en est fait quelque part des adversaires, mais il restait quand même un respect mutuel entre les deux,
ouais.
même si John mettait une pression très, très forte. Et là, avec les émissions de télévision qui ont commencé à se produire dans les années 90-2000, avec un genre un tueur presse ses soins, etc., John était plus actif dans les médias. Et là, il a commencé à faire des émissions de télévision ou des témoignages dans la télévision qui a maintenu le dossier de la disparition de Teresa toujours actif.
Et qui en a inspiré plusieurs, Pierre-Hugues Boisvenu, là, parce que lui, il reprochait à la Sûreté du Québec d'avoir dit, puis ça, c'est des notes que j'ai pris du reportage qu'on avait fait au Franc-Tireur. Votre fille fait du pouce. Il avait dit ça au père de Teresa. Elle fume du pot. Elle a peut-être fait une overdose. Rentrez chez vous. Puis elle va sûrement rentrer à la maison. C'est comme ça qu'on abordait les disparitions dans les années 70.
Ben, c'est au niveau de la disparition de Marilyn Bergeron, la jeune Bergeron.
Ouais.
C'est un suicide. Le petit Fortin au lac Saint-Jean, c'est un suicide. C'était à l'époque une façon, je dirais, presque instinctive de la part des policiers de décourager les familles à s'investir dans cette cause-là pour ne pas déranger. Vous savez, les victimes de criminels, là, il y a 20 ans, ils dérangeaient dans le système de justice. Que ce soit une disparition, qu'un meurtre non résolu ou un meurtre résolu, elle était une distraction pour les policiers. Et c'est la façon la plus facile d'écarter une famille, c'est de dire, votre fille s'est suicidée, on s'en occupe pas. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil partout. C'est John qui a tracé le chemin. C'est John qui a emmené Stéphane Luce dans cette vocation-là. John, on y doit beaucoup. On y doit beaucoup pour faire en sorte qu'aujourd'hui, les policiers ne tassent pas du revers de la main une famille ou ne cherchent pas à trouver des excuses sur la disparition de la personne. John a fait beaucoup, beaucoup progresser le dossier des disparitions au Québec, entre autres.
Est-ce que John Allard vous a inspiré? Mais je pense que l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues était déjà fondée en 2002.
Non, pas du tout. L'association a été fondée à la fin 2004.
OK. Et
c'est vraiment lors de la rencontre à Ottawa que je vous ai parlé tantôt,
ouais,
où le ministre Martin Cochon, qui était ministre de la Justice à cette époque-là, où on s'est présenté dans une salle comble, John et moi, on a accaparé les deux micros en partant de la rencontre du matin, et on a fait chacune déclaration, John en anglais, moi en français, la déclaration que je vous ai faite tantôt, et c'est de ce petit meeting ensemble, John et moi, qu'on a dit, on va s'occuper des victimes de criminels. On ne laissera plus l'administration de la justice s'occuper juste des victimes, même si ça n'occupait pas beaucoup à l'époque.
Ouais.
Et c'est là que l'idée de l'association est née. Et John, je pense, a été pour lui un grand support de que l'association vienne au monde. Parce qu'il trouvait quand même beaucoup de confort, John, auprès de l'association.
Bon, là-dessus, Pierre-Hugues Boisvenu, souhaitons que autant à Ottawa qu'à Québec, on reconnaisse le travail acharné de John Allard pour trouver la vérité, puis ouais, défendre aussi les victimes et les familles des victimes.
Oui, exactement. Oui.
En passant, vous revenez d'Halifax?
Je reviens d'Halifax. Truro, qui est une petite ville à côté d'Halifax, dans la circonscription de mon collègue, le docteur Ellis, et j'ai rencontré les 22 familles, pas les 22 familles, mais les familles dont un proche a été assassiné dans la tuerie là, de Port-à-Pic. J'ai passé la journée avec ces familles-là hier. M. Trudeau est venu faire une visite en coup de vent, même pas daigné rencontrer les familles. Et lorsqu'on lui a posé la question, qu'est-ce que vous allez faire pour les familles à partir du rapport qui a été déposé hier, il dit, on verra. Et vous savez, Benoît, ces familles-là, ces victimes-là, aujourd'hui, là, ça fait 3 ans qu'elles attendent du support du gouvernement parce qu'elles paient elles-mêmes, l'aide psychothérapeutique. Elles ont payé elles-mêmes d'enterrer le corps de leurs proches. Ils ont reçu aucune aide du gouvernement, alors que Trudeau, il y a 3 ans, parce que ça va faire 3 ans dans quelques semaines, avait dit à ces familles-là, nous allons être là pour vous aider. Et tout ce qu'il dit aujourd'hui de ce rapport-là, qui est assez accablant sur la GRC, tout ce qu'il dit, on verra. Moi, je trouve ça ignoble, inadmissible de la part d'un premier ministre d'avoir une attitude aussi, je dirais, détachée, manque de sensibilité par rapport à des gens qui n'avaient pas à être là, qui ne voulaient pas être là, mais où on a tué 22 personnes de la même communauté en 2 jours.
Ouais, je veux juste dire aux gens qui nous écoutent, M. Boisvenu, 18 et 19 avril 2020, un homme armé, oui, déguisé en policier qui a tué 22, oui, personnes. Il y avait aussi une voiture qui avait trafiqué, qui ressemblait à une autopatrouille.
Exactement, oui.
Et il a tué aussi une femme enceinte, une policière de la GRC. Oui. Et tout ce que Justin Trudeau a trouvé à dire, c'est « on verra ». Et moi, j'ai lu un rapport d'un criminologue qui disait l'horreur des 22 personnes assassinées n'a même pas provoqué un congédiement à la GRC.
Non, et c'est la pire catastrophe, la pire tuerie du Canada de toute son histoire. Le rapport qui a été fait cette semaine, qui a été déposé, c'est le troisième rapport en 15 ans qui blâme la GRC au niveau de sa culture de ne pas informer les victimes. J'ai d'autres dossiers dans la région des Maritimes où la GRC est impliquée et les familles ne sont pas du tout informées. Et tout ce qui se passe, ça se passe au-dessus de leur tête. C'est comme si ces familles-là étaient tombées dans une craque du plancher où ni le provincial peut les aider, ni le fédéral peut les aider. Alors qu'on avait promis à l'époque de les soutenir, au moins psychologiquement, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Moi, je trouve ça déplorable de la part de ce gouvernement-là.
Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que les familles vous ont dit?
Écoutez, moi, j'ai rencontré un monsieur là, qui est rendu tout seul parce qu'il y a deux membres de sa famille qui ont été assassinés. Il est tout seul aujourd'hui. Il est sur les médicaments depuis 3 ans. Il a des difficultés à se nourrir, des difficultés à s'occuper d'lui-même. Il n'a aucune aide. Il s'est appauvri parce qu'il est obligé de payer des médicaments, etc. Ces gens-là, si ce n'était pas de leur résilience, Benoît, moi, j'ai trouvé des gens là, qui étaient résilients, puis qui regardent pas en arrière, qui regardent en avant, mais ils disent, dans le fond, on regarde en avant, puis c'est le néant par rapport à l'aide qu'on peut avoir, c'est le néant par rapport à la compréhension que le gouvernement-là a. Moi, j'ai trouvé ça des gens là courageux. J'ai serré, j'ai pris dans mes bras le monsieur dont sa femme est enceinte puis qui était assassiné, un gars solide, un gars qui je pense que ces gens-là vont porter cette cause-là. On sait qu'il y a un recours collectif contre la GRC, on a hâte de voir ce que ça va donner, mais au minimum, il devrait avoir un minimum d'écoute de la part du gouvernement. Il était 3 ministres hier, Benoît, 3 ministres hier. Il n'y a aucun de ces 3-là a rencontré les familles. Je trouve ça vraiment déplorable.
Ben, heureusement, vous étiez là, Pierre-Hugues Boisvenu. Un gros merci, un, pour John Haller, puis deux, pour ce que vous avez fait en Nouvelle-Écosse. Merci, à la prochaine.
Mais c'est surtout moi qui te remercie, Benoît, pour avoir parlé sur ton micro à midi.
Au revoir.